La sexploratrice.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel.
Radio X.
Vous êtes de retour avec Mel et Mel et vous écoutez la sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Grosse soirée. On est plusieurs dans le studio. On est 6 personnes, en fait. 6 magnifiques personnes colorées que j'adore. Émilie Gagnon-Tremblay, médium. Paul Lévesque, qui est auteur, conférencière. On l'aime, hein, vous la connaissez tous déjà. Paul, qui est ici depuis des années dans les studios de choix. Sarah Ursula-Terrien également, qui est là depuis plusieurs années, collaboratrice officielle avec notre cher Dom Moret. Je t'avais l'invité pour venir nous jaser dans Sexploratrice.
Ah, ce serait
oui,
le fun.
J'aimerais ça. En tout cas, il ne sait pas encore, là, je vais demander. Et Thierry Doucet, qui est avec nous. Thierry, qui est également présent lors de nos soirées Contact Défunt. Puis là, dimanche, on a une supplémentaire dimanche, parce que c'est complet samedi, à la scène Le Bourgneuf, emiliegtremblay.com. Donc, procurez-vous vos billets. Thierry, ça va être encore quelque chose de
ça
puissant.
Ça va être incroyable.
Oui, chaque soirée est différente. Mais elle sera là également lors de cette
oui,
belle soirée.
Oui, moi, je suis là demain avec une de mes amies, justement, la, celle que je vous parle souvent.
Ton amie, c'est la troisième fois qu'elle va venir,
oui,
hein, je pense.
Oui, c'est la troisième fois.
Oui. Chaque
donc,
soirée
on va
différente.
Y aller ensemble.
Ouais. Ça vaut vraiment la peine, je vous le dis. Là, même il y a des gens...
Tu veux vivre quelque chose de différent et atypique.
Oui.
Ouais.
Ah
oui.
Ouais,
c'est ça,
là.
Mais moi, je l'ai vécu quelques fois à la radio.
À la radio. Ouais.
Mais j'ai comme hâte de le vivre avec plus de monde, voir l'énergie, puis comment ça se passe. Ouais, j'ai bien hâte.
Moi aussi, j'ai hâte parce que chaque fois, c'est différent. Donc, on retrouve déjà notre chère collaboratrice, Sarah Ursula Terrien, avec qui on va parler aujourd'hui de burn-out parental.
Absolument.
Bonsoir.
Salut. Contente de revenir là, la deuxième fois cette année.
Toujours un plaisir.
Plaisir partagé. Puis oui, c'est ça, burn-out parental. Écoute, c'est un thème qui m'est comme venu dernièrement parce que je me disais, hey, y a tellement de parents qui m'arrivent avec cette thématique-là, mais c'est tellement un sujet qui est comme un peu tabou,
mais
souvent
oui.
Teinté par la honte, la culpabilité, les gens n'osent pas en parler, que je me disais, hey, ça vaut la peine qu'on en parle pour démystifier un peu... ce sujet-là, qui est quand même une réalité qui est connue par de plus en plus de familles.
Oui, et ça tombe à point avec les débuts. On voit de plus en plus, je pense que c'est 200 000 personnes au Canada qui souffrent du blues de l'automne.
C'est
quelque chose comme ça, là.
Mais oui, il y a quand même un bon pourcentage aussi qui ressemble aussi aux familles parentales.
Exact. Fait que le blues de l'automne qui tombe en même temps, en fait, ça peut toucher beaucoup de parents aussi. Là, veux, veux pas, on se lève le matin, il fait noir. On sort du travail, il fait noir. On va chercher les enfants à l'école, à la garderie, il
exact.
Fait noir. Donc, ça touche énormément de gens.
En plus, avec la rentrée, c'est
ah,
une
oui.
grosse période actuellement avec... ben, l'automne, première communication aussi, là, des écoles là, qui viennent de sortir. Fait qu'il y en a
beaucoup
qui peuvent avoir soit des belles surprises, soit des un petit peu moins belles surprises. Fait que tu sais, souvent, quand on veut réajuster le tir, c'est pas mal là que ça se passe, finalement.
Ouais.
Donc, grosse période. Puis, c'est ça, tu sais, je faisais les recherches, puis même moi, j'ai été surprise par les chiffres parce que, bon, à travers le monde, on parle entre 5 et 12 % des parents qui vivraient avec un burn-out parental à un moment ou à un autre, mais dans les sociétés occidentales. Là, je vous laisse guesser quelque chose. Tu sais, les pays plus développés, occidentaux, là, comme le Canada,
ouais.
la France, Belgique, vous diriez combien de pourcentage, quel pourcentage des familles qui...
38.
38, OK, OK.
Ouais.
Je prends d'autres chiffres.
Qui dit mieux? 15.
15? 27?
Une vingtaine.
Vingtaine?
Ouais.
OK, il y en a, je pense que c'est toi qui es la plus proche.
Ah ouais?
30 %.
Ah!
Oui, 30
%. Ben,
voilà,
c'est énorme.
C'est énorme. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est pas un état qui est permanent, là. Tu sais, généralement, ça va être quelque chose qui, ben, on le souhaite, va être passager. Mais, écoute, tu sais, à la base, dans le fond, c'est de comprendre qu'il y a un écart entre les capacités d'un parent. Fait que, tu sais, qu'est-ce que le parent est capable de donner à un moment précis par rapport à toutes les exigences qui viennent du rôle parental. Donc, tu sais, c'est pas seulement de dire, je réponds aux besoins de base de mon enfant. Hein. Il y a souvent beaucoup plus que ça, là. Puis je fais le parallèle un peu parce que, tu sais, on utilise le terme burn-out. Le burn-out parental, c'est vraiment quelque chose de différent du burn-out professionnel, là. Mais ça prend quand même origine dans les mêmes éléments. Ah, ouais, la comment pression de performance.
OK, l'anxiété de performance qui embarque.
Tu sais, maintenant, tu ne peux plus être juste un parent correct. Tu sais, il faudrait que tu sois le meilleur parent, là, qui donne le prix Nobel. Du parent incroyable. Que tu fais faire 450 000 activités à ton enfant. Tu as toujours des lunchs bio parfaits que là, tu mets l'image sur les réseaux sociaux.
Je pensais, c'est-tu les réseaux sociaux qui ont créé ça aujourd'hui?
Ça alimente énormément la chose. On ne se le cachera pas.
Mais les parents aussi, tu sais, qui attendent, bon, pendant que la petite fait de la gymnastique au club de hockey ou des trucs comme ça, là, les parents dans les estrades qui, probablement, qui se mettent de la pression à un et l'autre.
J'observe un sentiment de culpabilité, moi. Beaucoup. Les parents se sentent coupables parce qu'ils passent peu de temps avec leur enfant physiquement. Tu sais. Le peu de temps qu'on a en soirée puis le week-end, je pense qu'ils s'en mettent beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de pression parce que c'est comme s'ils voulaient compenser ce temps-là qu'ils ne passent pas avec eux.
Et puis moi, je suis en train de vivre. Moi, je vis actuellement. J'ai l'impression de vivre le deuil du nid vide. Je vois presque plus mon fils. Il est rendu à 17 ans. Aujourd'hui, il a obtenu son permis d'apprenti, conducteur. Il travaille, il est avec sa copine. Je le vois pratiquement plus. Et là, je réalise, OK, c'était ça. Moi, j'aimais ça faire des activités familiales, la magie de Noël, tout ça. On dirait que tout est comme disparu. Je ne vais plus au théâtre, je ne vais plus voir les parents du Père Noël et tout ça. Puis j'étais comme, être parent, c'est ça, là. C'est 12, 13 étés, 12, 13 Noël. C'est pas plus que ça, là. Et si t'es séparé, t'en as juste la moitié.
Ouais, mais
quand on voit ça comme ça, ça passe vite, c'est fou.
Moi, j'ai pas ce philosophie-là.
Hey, mais non, mais moi, j'ai réalisé cette semaine.
Mélanie, regarde bien, là. On va tout avoir le cordon ombilical qui va faire mal. Là.
Oui.
OK? Puis là, on parle de décrochage ou de burn-out, mais un moment donné, là, ça va faire... Là, ils sont cute, en plus, les tiens, puis ils sont tout petits, mais...
Hey, moi, parlez-moi
ça va tellement
vite. Les oisillons qui sont en bas de nez, je peux là, je les garde.
Mais sais-tu quoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre, il faut remplacer.
Oui, c'est ça. C'est là que je suis rendue. Je ne sais pas comment...
Tu perds pas, tu remplaces.
Oui, remplacer, comment remplacer?
Ben,
moi, je comprends pas.
Dans le rôle. Oui, okay. C'est vraiment plus ça, je pense.
Puis tu remplaces dans... faire autrement, faire autre chose... quand mon fils a eu patte trop longue, puis c'est venu vite pour que je le berce, je me suis dit, ben au lieu de le bercer, je vais faire autre chose. Puis là, on s'est mis à aller au cinéma une fois par mois ensemble. Non, mais.
Oui, absolument. Non, comprends? Non. Je ne sous-estime pas la qualité des moments qu'on a. Du tout. Au contraire, nos conversations
là,
sont vraiment plus profondes.
Là, t'es entre deux, Mélanie.
En fait, je suis en deuil de l'enfant.
Des moments
magiques d'enfant, mais évidemment que ça évolue puis que je suis contente là, t'sais, j'ai tout aimé les étapes là, t'sais, vraiment, j'ai pas vécu de burn-out parental heureusement, mais il y a des parents qui trouvent c'est ça qui ont de la difficulté finalement.
Ça passe vite.
Mais la vie passe vite.
Ah oui, c'est fou.
Incroyable. Moi, depuis la trentaine, écoutez, là,
fou,
je comprends pas. Je vois pas les journées, je vois pas les semaines passées. Je suis comme, ben voyons, une autre semaine qui est terminée.
Mais oui.
Ben écoute, non, je sais pas le temps est passé où, mais bref, c'est un autre débat.
J'ai juste envie d'ouvrir plein de parenthèses, là. C'est sur le
Restez
temps.
Restez concentrés, tout le monde.
Ah, okay. Oui, parce que là, nous avons du temps. Du vendredi soir.
Oui.
Vous pelez.
Autant que la semaine passe vite, la sexploratrice aussi. Je vous ramène.
Merci, notre chef du temps.
Alors, le burn-out parental, c'est quoi exactement? T'sais, on remarque trois signes principaux. Donc, le premier étant similaire, mettons, à ce qu'on pourrait retrouver au travail, c'est-à-dire une fatigue ou un épuisement qui est vraiment là, envahissant, persistant, malgré que tu aies une ou plusieurs bonnes nuits de sommeil, tu ne récupères pas. Donc, ça, c'est la première chose à surveiller. La deuxième... C'est vraiment le désengagement au niveau émotionnel par rapport à ton enfant. Puis ça, je pense que c'est le bout qui est hyper difficile pour les parents. C'est pas que tu l'aimes plus, ton enfant, mais c'est que tu sens comme une distance qui s'installe. Tu sais, t'es comme, t'embarques sur le pilote automatique.
Mmh.
Puis, tu sais, t'en prends encore soin, tu réponds encore à ses besoins de base, hein, un peu comme on disait tantôt. Mais la connexion, c'est comme si elle était plus là. Tu sais, t'as juste... Il y en a des fois qui disent... Hey, j'aurais juste envie de m'enfuir à l'autre bout du monde pendant 3 mois.
Et puis en même temps, il y a sûrement une culpabilité là,
qui embarque avec exactement. Ça. Exactement. Puis ça amène un peu au troisième point qui est un peu ça. Tu sais, le sentiment de être jamais à la hauteur, être pas assez dans ton rôle de parent. Puis, tu sais, des fois, ça vient aussi avec des enjeux de régulation des émotions, bien évidemment. Fait que, tu sais, le parent qui, justement, perd patience, pète sa coche, puis là, après ça, il est comme, « Oh mon Dieu, je suis un parent de merde. » Et puis là, après ça, toute la journée, traîne ce sentiment-là avec lui. Donc, c'est vraiment les trois signes qui sont comme à surveiller, puis qui peuvent nous lever là, le petit drapeau rouge de, « Ben, peut-être que là, en ce moment, tu es en train de basculer là, du côté du burn-out parental, puis il faudrait faire quelque chose, clairement. »
Mais là, rendu là, okay, disons, là, je réalise que je suis en burn-out parental et je dois consulter, je trouve que les ressources sont pas là. J'entends des gens dire, puis récemment, en tout cas, une proche a voulu consulter, c'est comme un an d'attente pour voir un psychologue ou un travailleur social. Ou un... Donc, est-ce qu'il y a des ressources? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui réalise justement qu'il y a un burn-out parental? On doit faire quoi?
Bien, avant d'embarquer dans les ressources, tu as comme ouvert une porte.
Oui.
Pourquoi maintenant?
Ouais.
Alors qu'avant, on ne voyait pas, ça. Tu sais, il ne faut pas oublier que si on remonte, exemple, il y a 50 ans.
On n'entendait pas parler de ça.
Mais est-ce que tu avais les deux parents qui travaillaient over 40 heures semaine, qui avaient la pression justement de devoir être le parent parfait qui cuisine toujours parfaitement, qui amène ses enfants à faire plein d'activités sportives, qui est hyper mobilisé, qui en même temps doit être aussi l'employé parfait, super performant et d'être un citoyen engagé. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Il y en a beaucoup des choses.
Ah oui.
Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est la charge mentale est comme too much. Puis le filet social, tu sais, le fameux adage qui dit, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant.
Ouais.
Il est rendu où, ce filet social-là?
C'est vrai.
Tu sais, il y en a combien des familles que, quand on est en rencontre d'évaluation initiale, ça fait partie toujours de mes questions. Votre filet de sécurité autour de vous ressemble à quoi? Avez-vous des membres de la famille qui sont là pour vous? Mmh. Avez-vous des amis, des proches, des ressources, des organismes? Puis, c'est crève-cœur, honnêtement, de voir le nombre de familles qui sont excessivement isolées. Puis, généralement, c'est eux qui ont le plus de difficultés aussi. Mmh. Ça, c'est quand même quelque chose qui est... en tout cas, c'est tout un débat de société qu'il faudrait avoir de dire « Hey, on arrête ça, là, tu sais, vive chacun dans notre bulle, là, c'est comme peut-être pas l'idée du siècle, puis ce serait peut-être mieux de recultiver justement ce côté-là beaucoup plus social, l'entraide entre
la communauté.
La communauté. Bon, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça prenait pour me compléter.
On fait une équipe.
Voilà. Donc, voilà. Fait qu'avant d'embarquer dans les fameuses ressources, là, je tenais à nommer cela. Fait que les ressources, je me permets de le plugger, mais effectivement, tu sais, les listes d'attente pour les psychologues sont parfois très, très longues.
Oui.
On en est conscient. Les services au public aussi. Puis tu sais, des fois, les gens ne connaissent pas nécessairement la psychoéducation, mais pourtant, on est vraiment, vraiment spécialisé dans ce type de problématiques-là. Donc, on peut aider les gens de façon vraiment concrète à trouver des solutions pour ramener une meilleure dynamique dans la famille, travailler la santé mentale des parents, travailler aussi les comportements des enfants. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut travailler, entre autres, en psychoéducation, en éducation spécialisée. Donc, des fois, les gens nous oublient, mais on fait partie des ressources qui peuvent donner un coup de main au-delà des psychologues et des travailleurs sociaux qui sont ceux qu'on entend le plus parler. Je le nomme.
Ben oui.
Au-delà de ça, ben je pense que tu sais la première étape, c'est vraiment de lever la main puis de le reconnaître, hein, de pas être dans le déni puis d'accepter que hey, j'ai besoin d'aide, puis c'est correct là. Tu sais, à partir du moment où tu le reconnais, c'est le moment où tu vas faire le premier pas dans la bonne direction pour travailler à aller mieux. Fait qu'on veut pas se rajouter une charge, on veut alléger les choses à partir de là.
Est-ce que tu le vois davantage chez les personnes monoparentales ou séparées ou autant chez les parents qui sont toujours en couple?
Hey, je te dirais, je le vois autant.
Ah ouais,
peu importe.
Hein?
C'est sûr que je pense que les parents monoparentales sont peut-être un peu plus à risque. Remarque que je crois que d'emblée, sont peut-être plus outillés à aller chercher de l'aide parce que depuis, exemple, X nombre d'années, ben ils sont seuls, ils savent que c'est important de compter sur les ressources autour d'eux. Alors que les parents qui sont ensemble, des fois, ben peut-être tombent de plus haut quand ça arrive parce qu'ils ne l'ont pas toujours vu venir. Parce qu'ils se disaient, ben mettons, on est une équipe, puis on pensait passer au travers des défis. Et finalement, c'est pas ça qui arrive.
Des fois, toutes seules sont mieux organisées parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas compter sur l'autre.
Ouais.
C'est possible.
Tu sais, des fois, ouais.
En effet.
C'est vrai.
Donc voilà. Fait que, tu sais, reconnaître, nommer, bon, ça, c'était le premier point. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi. Tu sais, c'est pas un manque d'amour pour ton enfant, c'est vraiment une accumulation de stress, une accumulation de fatigue, un épuisement, puis un comme, hey, j'ai besoin de me reposer. Combien il y en a des mamans qui ne dorment pas de la nuit parce que, bon, peu importe, là, leurs deux plus jeunes font pas encore leur nuit, il y en a une malade, puis doivent quand même aller faire leur journée après, comme si de rien n'était, sans avoir de ressources pour leur donner un coup de main.
Et puis c'est prouvé, il y a des études qui disaient qu'une nuit de sommeil de 6 heures ou moins, c'est l'équivalent d'être hangover le lendemain. Tes facultés sont affaiblies autant que si tu avais viré une brosse.
Puis ça, c'est un point tellement important, ce que tu dis, Sarah. Moi, ce que je remarque, c'est que les enfants ne se couchent plus non plus. Ça finit plus de finir.
Bien, ils ont été sur la tablette toute la soirée, ils sont hyper...
Mais là, ça veut pas dire.
Non, mais souvent...
Des fois, au niveau... de ne pas vouloir brimer l'enfant, de ne pas vouloir hypothéquer sa vie d'adulte. On ne veut pas le froisser. Donc, on a un petit peu de misère à appliquer la discipline en soirée. Moi, je remarque qu'ils n'ont plus de vie de couple, ils n'ont plus de vie personnelle parce que le petit prout, il est 10 heures, il est encore en train de demander un verre d'eau. Mais ça, c'est une réalité aussi. Mmh. Tu sais, quand tu regardes...
Être capable de mettre un cadre, c'est tellement important.
Ça, là,
tellement.
Ça fait partie d'une des choses qui amène les parents... a pu être capable de vivre les situations parce qu'ils n'ont plus de temps pour eux, ni... Tu sais, il faut qu'ils se couchent, là.
Oui.
Absolument. Bien, c'est drôle que tu nommes ça. Encore cette semaine, j'ai un papa qui est venu me consulter seul. Il arrive seul à mon bureau, puis il dit là, mon problème principal, c'est que je n'ai plus de temps pour moi depuis que j'ai deux enfants. Puis là, j'étais là, OK, on va regarder la routine, la dynamique familiale, la réorganisation, où on peut aller gagner du temps. Parce que là, j'étais comme, c'est sûr qu'on a un enjeu là, à ce niveau-là. Puis comme de fait, effectivement, les enfants, bien, ils ne sont pas couchables le soir.
C'est ça.
Donc, ça en fait partie, c'est vrai. Fait que, tu sais, il faut se libérer du temps. Fait que, qu'est-ce qu'on peut alléger? Tu sais, un soir, là, que les enfants mangent un bol de céréales avec du lait, là, parce que t'es brûlé raide, puis que t'es comme, hey, entre me taper un souper d'une heure et demie, que là, il va y avoir des crises. Je vais devoir gérer ça. Je suis brûlée, j'ai la patience au bout du rouleau. Gars, c'est du quoi? À soir, là, on se fait un pique-nique dans le salon. On se fait un pique-nique dans le salon, fait un bol de céréales, on trouve deux, trois petits affaires protéinées là, au travers, puis on se fait juste une soirée film, jeu de société.
On dirait que je me serais jamais permis de faire ça. Je me serais senti mal de le faire ça.
Mais
c'est ça. Mais c'est juste. La société, j'imagine, qui fait...
C'est la pression. Ouais. Tu sais, que tantôt, quand je parlais de pression de performance, bien, ça rentre là-dedans. Après ça, bien, y en a-tu des activités? Le samedi, ça te tente pas d'aller aux pommes avec les 8 autres familles là, qui veulent prendre des belles photos? L'affirmation de soi, dire non, ça te tente pas. Pourquoi on prendrait pas juste un avant-midi? Relax.
Une journée à rien faire.
Ben Sarah, t'as-tu remarqué, des fois, quand t'interviens avec les enfants vont nous dire « J'espère qu'on n'aura rien en fin de semaine. Oh, » Même les enfants, ils demandent. Non, mais c'est vrai, là. C'est juste... Écoute, du temps où ils vont s'organiser, ils savent plus quoi faire tout seul, non?
Oui, c'est vrai, ça.
Mais ça, c'est vrai, ce que tu dis, c'est important. Il faut du temps de récupération. Pas tant que ça.
Non, il n'y en a pas beaucoup. Puis ça, on le disait, les semaines sont super chargées. Imagine, là, tu pars, l'enfant qui part à 7h30 le matin, il revient chez eux, il est rendu 17h30, il faut qu'il fasse des devoirs, des leçons. Ça se peut-tu qu'il soit brûlé?
Ben oui,
ça se peut. Donc, il faut, à un moment donné, tu sais, puis nous aussi, comme parents, d'ailleurs, là, on fait des semaines qui sont assez impressionnantes parfois. Fait, donc, il faut rétablir aussi tout ce qui vient toucher à l'équilibre émotionnel. Fait que prendre du temps pour nous, ne pas oublier qu'avant qu'on soit un parent, on était... un être humain à part entière, un homme, une femme qui avait des besoins, des intérêts.
Puis on doit être solide. On doit rester... en fait, il faut prendre soin de nous d'abord et avant tout pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Fait qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide.
Non, puis de prendre des moments pour soi, tu sais, de dire, hey, moi, il y a une fin de semaine dans l'année, je me fais un chalet avec mes chums de filles, pas d'enfants.
Hey, bon.
Go for it! Fonce, maman! Après ça, un autre qui dit « Hey, moi, une fois par semaine, je veux jouer au hockey avec mes chums de gars. Go for it, papa! Fonce! On le fait! » Tu sais, c'est ce genre de choses-là qui permettent de recharger la batterie, d'avoir des moments pour soi. C'est hyper important. Donc ça, vraiment, il faut continuer de le faire. Si on dit « Hey, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'une journée de congé. Je m'en vais au spa. Je me fais masser. Prenez du temps pour vous. » Arrêtez de culpabiliser pour ça. C'est ça qui va vous permettre d'être justement On parlait de l'équilibre. Donc, on retrouve notre équilibre avec ces choses-là. Et c'est comme ça, après ça, effectivement, qu'on est un pilier pour notre enfant, puis que c'est sécurisant pour lui parce qu'il voit que son parent va bien.
Oui.
Il y a plus d'énergie.
Ben oui.
C'est ça. C'est, ça fait la différence.
Ça. Sarah, ça se peut-tu qu'actuellement, quand on devient parent, on oublie tout le reste? On devient que des parents. On oublie qu'on est des amoureux. On oublie oui. qu'on est des humains qui ont existé avant avec des passions, des activités. Et c'est là qu'on risque justement de basculer. Totalement. Si ça devient que ce modèle-là dans notre vie, bien, on est autre chose aussi. Puis les enfants ont besoin de voir qu'on est des amoureux. Ils ont besoin de voir qu'on a des passions. Ça aussi, ça les fait grandir en beauté. Il ne faut pas sentir coupable de ça. Là.
Ben non, exact. Puis même, tu sais, de dire, hey, je sais pas, mettons, moi, je tripe sur le jardinage. Bon. Bien, je me prive pas de faire un jardin à cause que je suis rendue avec deux jeunes enfants. Au contraire, je les implique dans la passion.
On va les récolter.
C'était n'importe quoi. Là, prenez le sachet de graines, pitch ça dans terre. Il y a des affaires random qui poussent un peu partout dans le jardin. C'est pas grave, ils apprennent.
Oui.
Puis là, au fil des ans, bien, maintenant, ils nous aident. C'est rendu des professionnels. Ils cueillent leurs affaires, ils apportent leur petit panier. Ils s'impliquent dans nos passions, puis ça permet à tout le monde de vivre
des
sa passion.
T'es inclus!
Ben oui, exact. Je me suis pas empêchée bon, de le ça. Vivre, tu sais. Je les ai inclus dans cette passion-là. Fait que ça peut être une autre chose. Là, je sais que le temps file.
Oui, il reste environ deux minutes.
Il me reste des points très importants. Ben, rechercher du soutien, hein, évidemment. Que ce soit de l'aide, justement, de des amis, des membres de la famille, un professionnel. Tu sais, c'est important de le faire quand on a besoin d'aide, de dire « Hey, j'ai besoin d'un répit, s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. » Bien, on ne se gêne pas, on le fait. Puis écoutez, bien là, la clinique, hein, je pense que je peux peut-être en parler.
Ah, mais oui,
à ce
on va en reparler aussi avant de faire le bye-bye, mais absolument, la clinique, comment elle s'appelle ta clinique déjà?
Donc, c'est la clinique Le Chemin de la Résilience. On est situé à Charlebourg. On est en plein quasi-déménagement. Là, on déménage dans nos plus grands locaux là, la fin de semaine, pas en fin de semaine, l'autre. Donc, on va avoir vraiment un super bel espace là, pour les familles. Donc, autant, je le nomme, petite enfance, enfance, ado, adulte, aîné, tout le monde. Donc, ça, de ce côté-là, on peut vraiment vous aider, peu importe là, les enjeux que vous avez, que ce soit au niveau de santé mentale, justement, les dynamiques familiales plus difficiles.
Faites-vous
comme on
des diagnostics de neuropsy ou pas vraiment? Vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes dans l'accompagnement.
On ne pose pas de diagnostic, effectivement. Okay. Soit des fois, on va travailler à partir d'un diagnostic qui a déjà été posé. Des fois, on va référer les gens par la bande pour qu'ils aillent en chercher un aussi. Mais nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les gens à retrouver un état d'équilibre puis à aller mieux là, de façon générale. Mais peu importe c'est quoi la cause, gestion des émotions, anxiété, les troubles de comportement, les problèmes de dépendance. Donc, on a un éventail, disons, de services qui est quand même très, très large. Et bientôt, des cours de yoga, de méditation,
par
de l'hypnose thérapeutique. On va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Alors, les gens peuvent nous consulter là, sans problème. Appelez-nous pas ces temps-ci. On est saturés de ce côté-là, mais vraiment, la meilleure façon de communiquer avec nous, là, c'est par courriel, donc le chemin de la résilience à commercial@gmail.com ou carrément remplir le formulaire sur notre site web www.lechemindelarésilience.com.
Sarah Ursula Terrien, merci beaucoup. On va aller à la pause et au retour, bien, ce sera déjà le moment de se dire bye-bye. Mais là, Mélanie, je pense que ça bouge sur la route.
Oui.
On reçoit plusieurs messages de route à éviter.
Effectivement, il y aurait un accident juste avant le pont Pierre-Lapote, là, quand on arrive de Montréal. Donc, je pense que c'est un secteur là, à éviter. Je vois ici sur la carte là, que c'est, on va dire comme Jordan, très Rouge-Bourgogne. Mais on dirait que ça s'améliore un petit peu. Là.
73 direction nord, pont Pierre-Lapote vers Québec. Donc, faites attention. Quelqu'un dit route inondée, je sais pas.
Oui, mais moi ici, j'ai vraiment un accident.
OK.
Donc, à suivre, mais peut-être un... Soyez patient ou un secteur à éviter pour le moment.
Soyez prudents sur la route, mesdames et messieurs. Donc, on va tout de suite à la pause et restez avec nous au retour. On va redonner toutes les informations de nos différents intervenants pour que vous puissiez les consulter. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h à Twix.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.